Palestinienne ne sourit plus. Sa mère, Malaka Abbas, masse les pieds arthritiques de son vieux père, assis dans un siège de voiture arraché. Trop souvent, les victimes palestiniennes sont anonymes. Ici, elles ont un visage. Cette mère travailleuse sait un peu parler français. On l'enseigne dans les écoles de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Ils cherchent les Fedaïn. Les Kataeb et les Israéliens barrent les routes avec des chars. Ils vont descendre ici. Tu dois te cacher, vite ! Elle se lève et désigne un placard qui, une fois ouvert, présente un trou dans la dalle permettant à deux personnes de s'y recroqueviller. « Prends toutes tes affaires là-dedans » ajoute-t-elle en se retournant. « Et reste-y. Nayat t'apportera de l'eau et du riz. » Claude promène une main sur sa courte barbe noire. Avec ses cheveux bouclés, ses brodequins gris aux pieds, sa tunique de lin d'un bleu usé, il passe presque pour l'un des leurs. « Non, non, cachez-vous, vous, au moins les enfants. Nous, on ne craint rien, on n'a pas d'armes. Ils veulent les Fedaïn, tous les Fedaïn. Toi, tu es journaliste et européen. Ils vont te torturer, te tuer s'ils te trouvent. » Le grondement de la guerre lui noue les tripes. Depuis une semaine, les parafrançais, les marines américains et les bersaglieri italiens ont quitté le pays. Les barrières et les règles ont cédé, les canons de 155 des artilleurs israéliens font régner la terreur. La porte du placard se referme. Blotti sous une couverture dans le trou dissimulé par une nappe en plastique, Claude crève de peur comme un enfant, malgré ses 32 ans. Rattrapé par l'épuisement, il s'effondre dans le sommeil. Ça ressemble à une ampoule qui se brise à l'intérieur du crâne. Claude se réveille en sursaut, au milieu des hurlements et des bruits de ferraille. Il fait nuit. Ils sont là, à l'intérieur. Des raclements de bottes sur le sol, la porte du placard s'ouvre. Terré sous la nappe, Claude cesse de respirer. Ses muscles se rétractent. Si on le trouve, il meurt. Il sent l'odeur de l'alcool, ce souffle chargé de hargne. Par un interstice minuscule, il discerne le tatouage d'un cèdre sur une épaule. Les phalangistes. La milice chrétienne libanaise. Des bêtes sauvages sans scrupules, dont le chef vient d'être assassiné. La porte du placard se referme, mais pas suffisamment. Le reporter voit tout. Il voit l'homme devenir animal, s'éloigner de sa conscience. Des siècles d'évolution pour en arriver là. Claude sombre dans son trou, en pleurs, le visage dévasté. Il hurle en silence, tandis que ses ongles grattent la terre jusqu'à se teindre de pourpre. Il sait. Il sait que de l'autre côté de la porte, Nayat le supplie. On fête, on rit, on s'installe, on casse, on chante en arabe avec l'accent libanais. La raque coule à flot dans les gorges en feu. Pourquoi les militaires israéliens n'interviennent-ils pas? Ils devraient voir de là-haut, depuis l'hôpital de Haqqa. Ils devraient entendre. Claude ignore combien de temps l'hystérie sanglante a duré. Il a vu la nuit disparaître, puis réapparaître. Ses pieds dans ses chaussettes ont gelé. Sa vessie a donné plusieurs fois de la chaleur à ses cuisses. Puis le chaos a pris fin, sans prévenir. La tornade s'est soudain dissipée. Lorsque Claude rouvre les yeux, déshydraté, affamé, Dieu seul sait combien d'heures après le massacre, les soldats ont disparu. S'est-il évanoui? Marche-t-il en enfer? Il ne se souvient pas. Il a mal là, à l'aine et aux omoplates. Une mèche brune lui barre le front. Il tente de la décoller et elle craque sous ses doigts, raidie par le sang coagulé. Il ne comprend pas d'où viennent ses hématomes et ses blessures. Son cerveau est poisseux. Il s'extrait de sa niche. Dans la maison, tout est immobile. Claude ne saisit pas le sens de ce silence. Il ne pleure pas, n'y arrive pas. Son père punissait à coups de ceinturon quand on chialait dans les corons. Et son corps flambait sous le cuir. Pourtant, une fois dehors, alors que le soleil lui brûle la figure, il explose en larmes. Mais soudain, il voit Nayat. Nayat, là, debout entre les morts. Elle ondule dans le flou de la chaleur, elle tend une main et l'appelle. Il court vers elle, mais ne serre entre ses bras que les restes d'une bâche déchirée, agitée par le petit air vicié du matin. Il erre dans les rues encombrées, mêlé à la cavalcade des journalistes arrivés de Jérusalem, des correspondants de guerre, de la poignée de survivants. Des amas de